Saint Ambroise défend ses églises contre les Ariens. Ambroise, 340-397, fils du préfet des Gaules, était né à Trèves dans cette Gaule romaine qui s'étendait jusqu'au Rhin et que le représentant de Rome gouvernait en même temps que l'Espagne et la Grande-Bretagne. Il était de grande race et de race chrétienne. Quelques années plus tôt, les Ambroises, au commencement du IVe siècle, avaient eu une martyre dans leur ascendance, sainte Sautère, que le bourreau commença par défigurer parce qu'elle était très belle. Par un abus de ces temps antiques, et qui n'est pas sans quelque ressemblance avec le jansénisme du XVIIIe siècle, beaucoup de fils de chrétiens étaient seulement inscrits sur la liste des catéchumènes, mais on remettait le baptême à plus tard. Il en avait été ainsi pour Ambroise et pour son frère aîné Satire. Seule leur sœur Marceline avait, dès le début de la vie, été reçue dans l'Église. Ambroise ne se destinait point aux ordres sacrés. Élevée à Rome, après la mort de son père, c'est-à-dire depuis l'âge de 14 ans, entourée de ses familles patriciennes, parmi lesquelles l'État romain choisissait depuis des siècles ses hauts fonctionnaires, protégé et conseillé par des amitiés puissantes, il avait commencé de suivre la carrière administrative. Et déjà, en 374, il était depuis plusieurs mois gouverneur d'une des plus belles provinces de tout le nord de l'Italie, que commandait la grande ville de Milan lorsque l'évêque vint à mourir. Les autres prélats de l'Insubrie, de l'Émilie et de la Ligurie sont assemblés dans le cœur de l'église principale. Ils délibèrent sur le choix à faire. Dans la nef, le peuple, innombrable, est divisé en deux parties, bruyants, les catholiques et les hérétiques ariens, et le tumulte devient si gênant que le gouverneur intervient. Il apparaît tout à coup et parle à cette foule pour prévenir de graves désordres. Il parle admirablement et ses succès au barreau de Rome sont connus des Milanais. Il est agréable à voir, il est charitable, il a de la jeunesse et de la dignité. Ses mœurs, dans ce temps corrompu, sont irréprochables. Le peuple de Milan l'aime et craint déjà de le perdre. Un enfant au milieu de l'église s'écrie « Ambroise, évêque !» Aussitôt, une immense acclamation approuve ce choix inattendu et l'impose. Les évêques se trouvent d'accord. L'empereur auquel on annonce qu'Ambroise a été désigné répond « Il n'y a pas d'esprit plus droit que celui-là, c'est une barre inflexible. » Le 30 novembre 374, le jeune consulaire de l'Insubrie, de l'Émilie, et de la Ligurie était baptisé. La semaine suivante, il recevait le sacrement de l'ordre et était sacré évêque. Qu'un évêque nommé dans ces conditions, et l'on peut dire improvisé de la sorte, soit devenu un des docteurs de l'Église, c'est que son génie ne suffit pas à expliquer. Il fallut encore une grâce extraordinaire de Dieu et la correspondance à cette grâce, c'est-à-dire un prodigieux effort. L'historien de l'Église et l'Empire romain au IVe siècle, le duc Albert de Breuil, a essayé de raconter ce qu'était le travail quotidien de l'évêque. Je cite « Du jour où il avait franchi le seuil de l'Église, il semblait n'avoir plus gardé une pensée pour le siècle, pour ses soucis et pour ses pompes. Jamais transformation ne fut plus complète. Sa vie ne fut pas seulement celle d'un prêtre, mais celle d'un anachorète. Il avait versé dans le sein des pauvres tout l'or et l'argent monnayé qu'il possédait et fait don à l'Église du fond de ses biens, n'en réservant que l'usufruit à son frère Satire et à sa sœur Marceline. La merveilleuse facilité d'un esprit rompu au travail comme au commerce des hommes et qui pouvait à volonté se répandre ou se concentrer lui permettait de mener de front les soins du ministère sacré et de fortes études destinées à combler les lacunes de son éducation théologique. Dès l'aube du jour, ses dévotions faites et le saint sacrifice célébré, il s'asseyait à sa table, dévorant des yeux un volume de l'Écriture sainte auquel il joignait quelques commentaires d'Origène, de saint Hippolyte ou quelques sermons de Basile de Césarée recueillis par les sténographes d'Orient. Sa porte restait ouverte, entrait qui voulait, même sans avoir besoin de se faire annoncer. Avait-on affaire à lui pour quelque aumône du corps ou de l'âme, il interrompait sa lecture, répondait aux solliciteurs avec une attention toujours prête et toujours bienveillante. Puis, la consultation finie, il reprenait son livre, ne s'inquiétant pas même si des visiteurs importuns demeuraient pour l'observer avec une indiscrète curiosité. Ainsi se passait le jour entier, presque sans interruption, même pour les repas, car, sauf 2 jours par semaine, il jeûnait jusqu'au soir. La nuit venue, c'était l'heure de la composition. Il préparait alors ses sermons pour le dimanche suivant, ou rédigeait quelque ouvrage dogmatique. Mais, note ou livre, il écrivait tout de sa propre main, ne voulant pas qu'aucun serviteur partageât ses veilles. Fin de citation. La maison où il habitait était située près de l'enceinte de la ville dans un lieu solitaire. L'évêque y avait réuni tous ses clercs autour de lui et vivait avec eux une vie de communauté. Là, écrivait-il, les prêtres lisent, écrivent, travaillent ensemble. Vivant en dehors des sociétés mondaines, ils sont, les uns pour les autres, une fraternelle sauvegarde. Rien ne donne plus de force ni de grâce au sacerdoce que d'être, dès la jeunesse, assujetti à une discipline austère, soumis à une règle sainte, qui, tout en laissant les clercs vivre parmi le monde, les sépare des relations et des habitudes mondaines. Il avait du prêtre la plus haute et la plus juste idée. Il le voulait tout noble et tout simple, ne cessant de répéter qu'on ne devait rien trouver dans le prêtre qui fût plébéien, et en même temps pour montrer qu'il ne proposait à ses frères que l'imitation même de Jésus-Christ, se faisant tout à tous et laissant les pauvres l'entourer dans les rues, dans les églises et leur appartenant. Il n'y a guère d'évêques en notre temps à qui les événements, une fois ou l'autre, ne proposent le plus rigoureux devoir d'entrer en lutte avec la puissance séculière pour défendre la foi, la liberté chrétienne ou le bien des pauvres. L'évêque demeure le défenseur civitatis de la cité divine et de sa banlieue humaine. Débile ou fort, il est contraint de donner sa mesure. Exemples innombrables, aussi variés que les occasions où ils se produisent et que les caractères qui entrent en conflit. On a rappelé souvent, dans des livres ou des images, la scène que raconte Théodoret, l'évêque de Milan se présentant à la porte de l'église au moment où l'empereur Théodose arrive. L'empereur, pécheur public, qui commanda le massacre de Thessalonique et qui n'a pas encore donné la preuve de son repentir. « Je vois, empereur, que vous ignorez la gravité du meurtre que vous avez fait commettre. » Peut-être l'étendue de votre puissance vous empêche-t-elle d'apercevoir votre faute, etc., etc. Le discours est digne de celui auquel on l'attribue. Mais fut-il prononcé et avec cet appareil et devant la cour? Il y a des raisons d'en douter, bien que l'indignation de l'évêque de Milan et la correspondance où il l'exprime avec tant de liberté soit des faits aussi fortement établis que la pénitence tardive et sincère de l'empereur. La vertu est bonne à citer. Encore la faut-il authentique. Les traits de courage ne sont pas rares dans la vie de saint Ambroise. La conduite qu'il tint dans ce qu'on pourrait nommer la dispute des églises, sous le règne du prédécesseur de Théodose, ne sera jamais trop connue. Nous avons même des raisons particulières de l'étudier, car les prétentions de l'État impérial faible et violent, conduit par les hérétiques ariens, se retrouvent dans la politique religieuse de plusieurs États modernes. Certains traits de l'époque d'Ambroise rappellent par exemple la période des inventaires en France, au point que nous pourrions dire, si nous ne savions pas notre catéchisme, que le diable est devenu vieux tant il radote ses tours. J'ai dit que l'évêque de Milan parlait à merveille, quoiqu'il eût une voix faible et vite enrouée. Il était un orateur très recherché. On célébrait la suavité d'Ambroise. Mais dès le début, on vit que cette douceur n'était qu'une parure et une manière d'être de la force. Il n'y a pas de saint sans caractère. L'empereur Valentinien ne s'y était pas trompé. Lui-même, il fit l'expérience de cette vertu de l'évêque et ses successeurs la connurent aussi. Tout ce qui fait que les hommes sacrifient les droits de la vérité fut employé contre l'évêque de Milan. Non seulement la force, mais la puissance d'intimidation de la loi, la flatterie et l'attraction du pouvoir, la ruse, la longueur du temps, la menace des plus grands maux. Il ne céda pas ce qui n'était point à lui, les droits de l'Église. Dès le début de son épiscopat en 375, il entendit s'élever la plainte des catholiques, maltraités en Orient, menacés en Occident, par des fonctionnaires païens ou ariens. L'empereur Valentinien, chrétien cependant, et chrétien sincère, avait permis dans un moment d'emportement quelques-unes de ses vexations, car le prince était devenu irritable et malade, et quant aux autres injustices, il pouvait aussi en être tenu pour responsable, n'ayant pas su les prévenir ou les réprimer. L'évêque, dans la terreur commune, n'eut pas peur. Il se présenta devant l'empereur et parla pour ceux qui n'osaient pas parler. L'empereur fut touché et il se repentit et le montra par des actes. 2 ans plus tard, le fils très jeune de Valentinien Ier régnait, ou plutôt, sous son nom, l'impératrice Justine, sa mère, arienne et perfide, gouvernait l'Occident. Elle fut sollicitée par les Ariens qui voulaient qu'on leur laissât la libre disposition d'une église, la basilique porcienne, qui venait d'être bâtie en dehors de l'enceinte de la ville de Milan. Pour être plus forte et paraître plus soucieuse du droit, elle réunit le conseil des grands fonctionnaires qu'on nommait le consistoire sacré, fit rendre une décision qu'on ne pouvait guère lui refuser et convoqua l'évêque au palais. C'était au commencement du carême de l'année 385. L'évêque accourut sans savoir ce qu'on voulait de lui. Il fut reçu au consistoire. L'empereur était là, entouré de ses principaux officiers et des dignitaires de sa cour. La réunion avait été préparée pour intimider Ambroise. Nous avons de la scène qui se passa une sorte de procès-verbal écrit par saint Ambroise. Attaqué pour ce qu'il avait dit et pour ce qu'il n'avait pas dit, en cette circonstance où l'ordre chrétien était en cause, il dut se redéfendre. Il raconta les faits, il rétablit le dialogue, et l'émotion même des acteurs vit encore dans le récit de la lutte. À peine l'évêque fut-il entré que l'ordre lui fut signifié en termes très secs d'avoir à abandonner la basilique porcienne. Ambroise dédaigna de répondre aux fonctionnaires qui lui parlaient, mais s'adressant à l'empereur, il refusa. « Non, dit-il, ce serait un crime pour moi et un malheur pour vous. Tout empereur que vous êtes, vous n'avez pas le droit de violer la maison d'un simple particulier, et vous croyez pouvoir envahir la maison de Dieu ?»« L'empereur peut tout, interrompit un courtisan, puisque tout est à lui. » « Vous vous trompez. L'empereur n'a aucun droit sur les choses de Dieu. » l'enfant impérial réitéra la demande de livrer l'Église. L'évêque s'y refusa de nouveau, et la discussion aurait pu durer encore quelque peu si, au moment même où elle devenait plus émouvante par le ton des décisions prises par les deux parties, on avait entendu la rumeur de la foule qui enveloppait le palais. La nouvelle s'était répandue que l'évêque avait été appelé au palais précipitamment, et comme on connaissait vaguement les mauvais desseins de Justine à son égard, l'inquiétude était générale. Et les chrétiens, qui formaient l'immense majorité de la ville, accouraient pour le défendre. On sut bientôt que ce n'était pas la vie d'Ambroise qui était en danger, mais l'honneur du culte chrétien. L'irritation ne fut pas calmée par cette nouvelle, et le peuple commença à se ruer sur le palais avec une fureur telle que les portes étaient ébranlées et menaçaient de céder. L'officier de garde essaya vainement de faire sortir ses troupes, qu'il ne put même ranger en bataille, et à la seule vue des épées levées, tous s'écrièrent d'une voix unanime qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour leur foi. L'impératrice eut peur. Elle changea d'attitude et de langage. « Évêque, calmez vos fanatiques !»« Et que leur dirai-je »« Dites-leur qu'aucune basilique ne leur sera enlevée. » La peur ne fait pas les traités durables. Ce ne pouvait être qu'un répit. Le vendredi 4 avril, qui était l'avant-veille des rameaux, d'importants personnages, comtes du consistoire, se présentèrent chez l'évêque de Milan et lui signifièrent qu'il eut à abandonner au culte arien non plus la basilique porcienne, mais la métropole même, l'église dans laquelle il avait coutume d'officier et de prêcher et qu'on nommait la Neuve. Surtout, ajoutèrent-ils, que le peuple ne bouge pas. Ambroise répondit : Le temple de Dieu ne peut pas être livré. Et il attendit. Le lendemain, comme le bruit de cette menace nouvelle s'était répandu, la basilique neuve était pleine de monde. Ambroise s'y était rendu à l'ordinaire et s'apprêtait à dire la messe. Le préfet du prétoire, venu de son côté, s'émut de voir une si grande foule et si agitée. « Cédez, dit-il en s'approchant d'Ambroise, abandonnez au moins l'église porcienne, l'empereur s'en contentera. » Mais autour d'eux, la foule devinant le piège cria « Ambroise, n'abandonnez rien !» Le fonctionnaire, comme ils font tous en pareil cas, se retira pour aller faire son report. Le lendemain, tandis que l'évêque célébrait l'office dans l'église plus remplie encore que la veille, on apprit tout à coup que les gens du service du palais avaient pris possession de cette basilique porcienne que la foule chrétienne avait laissée sans défense, ne la croyant plus menacée, et qu'ils étaient occupés à envelopper de riches étoffes les colonnes du parvis et de la nef, ainsi qu'il était d'usage en Italie, dès ce temps-là, au jour de grande solennité. Subterfuge policier, comme on voit, double attaque, dont l'une n'est qu'un leurre. Combien de fois n'a-t-il pas servi ? On le verra servir encore. Aussitôt, le peuple sortit en tumulte et courut vers la basilique profanée. Mais Ambroise n'interrompit point la fonction et commença de dire la messe. On venait lui donner des nouvelles. Il suppliait Dieu d'intervenir afin que pas une goutte de sang ne fût versée, s'offrant en victime pour le salut des catholiques et des impies eux-mêmes. Il disait « Seigneur, que je ne survive pas à la perte d'une telle ville qui serait celle de l'Italie tout entière. » Parole de héros et parole d'italien déjà. Pour la seconde fois, la crainte d'une sédition populaire arrêta l'impératrice. Le jeune empereur ne parut point dans la basilique porcienne, les prêtres ariens n'y célébrèrent point leur office, il y eut seulement un grand déploiement de troupes dans la ville, et notamment à l'entrée des deux basiliques, la porcienne et la neuve, et défense fut faite aux employés catholiques, à tous les Milanais qui tenaient aux administrations publiques, de sortir de leur maison et d'assister aux cérémonies de la Semaine Sainte. Le lundi, le mardi, le mercredi de cette semaine passèrent sans qu'un conflit violent se fût produit. Les officiers du palais et toutes sortes d'entremetteurs bénévoles, gens habiles qui n'ont guère souci de la justice, mais espèrent se mettre en évidence ou en faveur s'ils résolvent, n'importe comment, un conflit d'ordre public, ne manquaient pas de conseiller à l'évêque de faire des concessions au pouvoir. Réussir est leur seul principe. Ils disposent du bien de Dieu avec facilité. L'argument d'État leur semble toujours bon. L'empereur est maître du tout, disait-il. Ne peut-il pas avoir une basilique à sa disposition ? Non, répondait Ambroise. Ce qui est à Dieu n'est pas à l'empereur. S'il me demandait ce qui m'appartient, mes fonds de terre, mon argent, n'importe quoi de cette sorte, je ne refuserais pas, quoique tout mon bien soit celui des pauvres. Si c'est mon patrimoine qu'il veut, prenez-le. Si c'est ma vie, je l'offre. Mais une basilique, ô empereur, je n'ai pas le droit de la livrer. Vous n'avez pas le droit de vous en emparer. Vous ne pouvez nullement violer le domicile d'un particulier et vous prétendriez envahir la maison de Dieu. Mais au moins reprenez les comptes et les tribuns. Employez-vous à calmer le peuple. La réponse est remarquable et vaut qu'on la médite. Je puis bien ne pas l'exciter, mais il n'appartient qu'à Dieu de l'apaiser. Si vous croyez d'ailleurs que c'est moi qui l'ai enflammé, il y a une chose bien simple à faire. Vengez-vous sur moi et exilez-moi. Pour bien montrer qu'il n'était point, en effet, un agitateur populaire, mais simplement un homme qui ne peut désavouer une indignation juste et qu'il n'a point soulevé, Ambroise n'alla point officier dans la basilique neuve ou dans la porcienne, mais dans une ancienne chapelle depuis quelque temps abandonnée. Là, le mercredi saint, on vint lui dire que la prise de possession à main armée de la basilique neuve était décidée et que l'église était déjà entourée de troupes. Dites aux soldats, répondit-il, que ceux qui prendront part à cette violence seront séparés de la communion des fidèles. L'office ne fut point interrompu, l'évêque ne sortit pas, il commença même aussitôt la leçon qu'il avait préparée pour les catéchumènes et qui était tirée du livre de Job. Je cite, avant qu'elle fût achevée, on entendit un bruit d'armes. Des soldats parurent à la porte. Il y eut un effroi général et les femmes éperdues poussèrent de grands cris. Mais quelle ne fut pas la surprise commune quand on vit les hommes armés, eux-mêmes s'agenouiller, répétant qu'ils venaient prier avec leur évêque et non le combattre, que la basilique neuve était libre et qu'on y appelait Ambroise à grands cris. Chose inouïe en effet, la force armée avait manqué à la consigne. Elle avait résisté, non ce qui était trop ordinaire, pour aller porter à un nouveau maître des hommages perfides et cupides, mais résisté sans trahison et par conscience. Elle avait hésité à violer un droit plus sacré que celui de l'empereur et senti peser sur elle un devoir plus sacré que l'obéissance militaire. Fin de citation du livre de Monsieur de Breuil. On comprend que la fête de Pâques ait été cette année-là célébrée avec une joie particulière. L'évêque, si ferme dans la défense du droit, ne se défendait pas personnellement et d'autre part ne provoquait pas le pouvoir. On le sentait protégé par l'affection de tout un peuple. Il eut la paix, ou ce qui ressemble à la paix, pendant un an. Mais en janvier 386, parut non plus un ordre du consistoire, mais une loi de l'Empire qui établissait la liberté du culte en faveur des Ariens et punissait de mort ceux qui y apporteraient un obstacle quelconque. La première chose qu'on demanda à l'évêque de Milan, en vertu de cette loi, fut de se présenter devant le consistoire impérial pour y répondre, touchant la foi, en présence de l'évêque hérétique qui se nommait Auxence. L'ordre de la cour portait que chaque parti nommerait ses arbitres, que l'empereur lui-même présiderait l'assemblée et qu'après avoir entendu les explications d'Ambroise, il conclurait. L'évêque répondit à l'envoyé impérial qu'il ne comparaîtrait point. C'est au laïc d'être jugé, ajoute-t-il. C'est à l'évêque d'être juge. Lisez les Écritures. Vous y verrez qu'en matière de doctrine, ce ne sont pas les empereurs qui jugent les évêques, mais les évêques qui jugent les empereurs. Afin que sa pensée ne fût pas dénaturée par le messager, Ambroise écrivit presque aussitôt à l'empereur et la souveraineté de l'Église catholique dans les questions religieuses est de nouveau affirmée dans cette lettre fameuse. Je cite « Vieillissez seulement et vous verrez ce que vous penserez vous-même de l'évêque qui met les droits de l'Église sous le pouvoir des laïcs. Votre père, un homme mûr, disait « Il ne m'appartient pas de décider entre les évêques. » Et voici que vous dites « C'est à moi de juger. » Supportez, je vous prie, ô empereur, que je ne vienne pas vous trouver dans votre consistoire. C'est un lieu où je ne suis point habitué d'aller, excepté quand il s'agit de vos intérêts. Je ne puis accepter une discussion dans le palais, moi qui ne connais ni ne recherche le secret de ces demeures. » Dans cette lettre, Ambroise disait aussi à l'empereur « Si je suis le seul obstacle à vos desseins, pourquoi faire un décret qui frappe toutes les églises ? Sacrifiez-moi et laissez les églises en paix. » La cour, embarrassée, n'osant prendre un décret d'exil qui eût ameuté le peuple, envoya un officier qui devait dire simplement à Ambroise et sans qu'il restât trace de cet ordre « Sortez de la ville, allez où vous voudrez et libre à qui voudra de partir avec vous. » On espérait que l'évêque, fatigué par la lutte, redoutant la colère de Valentinien, abandonnerait volontairement ses ouailles. Il n'en fit rien et se contenta d'être prêt à tout. On le vit parcourir la ville selon son habitude, visiter les fidèles, prier au tombeau des martyrs. Et il continua de vivre ainsi, même après que les Ariens, vers la fin du carême, l'eurent inutilement sommé en vertu de la loi du 21 janvier de céder la basilique porcienne depuis longtemps contestée. La semaine sainte s'ouvrit, l'évêque commença les offices dans la basilique neuve et la foule s'y porta d'autant plus nombreuse que l'inquiétude de ce qui allait arriver agitait tous les esprits. Chacun se disait que la colère de l'impératrice mère et de l'empereur ne pouvait manquer d'éclater. Le soir, quand l'évêque voulut se retirer, il en fut empêché par les catholiques qui lui demandèrent de le défendre et de passer la nuit dans l'église, dans les cloîtres et les logements annexes, car les soldats avaient cerné la basilique et veillé sur les issues. Les fidèles se mirent même à construire des barricades intérieures comme pour soutenir un siège. Ambroise en souriait, elle leur rappelait que la garde la plus sûre est celle des anges. On ne sortait, on ne rentrait que par surprise. Pendant toute la semaine sainte, un grand nombre de catholiques demeurèrent ainsi enfermés dans l'enceinte de la basilique. Pour occuper les longues heures, Ambroise instruisait les fidèles. Il les mettait au courant des propositions ou des menaces qui lui étaient faites par la cour ou les Ariens, comme aux commandants d'une place assiégée. Il insistait sur les limites du pouvoir religieux et du pouvoir civil et formulait la doctrine qu'il définissait à la fois et qu'il pratiquait avec un égal bonheur. « N'ayez pas peur, mes amis, disait-il, je ne vous quitterai pas si cela dépend de moi. Je puis soupirer, gémir, pleurer, car les larmes sont les armes véritables du prêtre, mais déserter mon église et quitter mes enfants, je ne le ferai pas. Je suis le sujet des empereurs, mais non pas leur esclave. L'empereur est dans l'église et non au-dessus d'elle. Je dis cela humblement, mais je le soutiendrai fortement. L'évêque faisait aussi chanter des psaumes et des hymnes en deux chœurs, l'un d'homme et l'autre de femme, ce qui n'avait été en usage jusque-là que dans les églises d'Orient. Même il composait des hymnes, comme l'hymne de l'aurore, et ce chef très complet versifiait pour ses troupes et chantait avec elles. Dans l'assemblée de ces fidèles courageux qui défendaient Ambroise en l'entourant, il y avait un jeune professeur d'éloquence, célèbre à Carthage, à Rome et à Milan, et qui avait perdu la foi par le désordre des mœurs. Cet homme illustre, ce grand artiste, ce professeur d'éloquence, très aimé de la jeunesse, bien que né de parents chrétiens, n'avait pas encore été baptisé. Il souffrait, ayant laissé le catholicisme, qu'il n'avait jamais bien connu, de ne rencontrer nulle part la vérité. C'était une nature inquiète, ardente et tendre. Augustin était venu là à la demande de sa mère. Il avait promis de suivre la prédication de l'évêque. De son siège épiscopal, Ambroise pouvait voir Monique et Augustin qu'il connaissait tous deux. Je cite, « À mesure que le chant ecclésiastique prenait l'accent d'une prière plus pénétrante, il voyait sur le visage de la mère la confiance dans le secours divin succéder à l'angoisse de l'amour maternel, tandis que les traits altérés du fils portaient l'empreinte d'une lutte douloureuse entre l'attendrissement du cœur et la rébellion de l'intelligence. » Fin de citation. Augustin admirait l'évêque et ne le comprenait cependant qu'à demi. Il a écrit lui-même dans ses confessions « J'étais assidu à ses instructions publiques sans y apporter d'ailleurs l'intention requise, mais pour m'assurer si son éloquence était à la hauteur de ce qu'on disait et si elle se tenait au-dessus ou au-dessous de sa réputation. Je demeurais suspendu à sa parole, insouciant et dédaigneux du fond. » Mais la force de la vérité, bien qu'elle fût combattue, prenait en ces circonstances, dans ce péril, dans l'unanime conviction de la foule, un avantage qui grandissait, et Augustin a encore écrit, je cite, « Je retenais mon cœur sur le penchant de l'adhésion, de peur du précipice, et cette suspension même m'étouffait. Ainsi mon âme souffrante, que la foi seule pouvait guérir, de peur d'être trompée par la foi, se refusait à la guérison. » Fin de citation. L'heure approchait où la foi serait victorieuse, et l'on peut dire que cet événement qui allait donner à l'Église un nouveau docteur, d'un génie et d'une culture incomparables, fut en partie déterminé par la prédication et l'exemple d'Ambroise pendant le siège de la basilique milanaise. La fermeté de l'évêque fut encore récompensée autrement. Les troupes, envoyées contre les catholiques, se relâchèrent de leur surveillance. Bientôt, elles furent retirées. La paix n'était point faite, mais dès le début de l'année 387, elle fut imposée à Justine et à l'empereur Valentinien II par une terrible menace qui arrivait de la Gaule. La Gaule était à ce moment gouvernée par un usurpateur, soldat rude et rusé, qui cherchait un prétexte pour intervenir en Italie. Il avait cru en trouver un dans les désordres de Milan, et ayant à se plaindre des troupes de Valentinien, préposées à la garde des cols des Alpes, il ajoutait à sa lettre un paragraphe où il faisait mine de protéger les catholiques italiens et s'indignait contre la persécution dont ils étaient l'objet. Un seul homme connaissait Maxime, c'était Ambroise. Un seul personnage pouvait en imposer à ce chef de la Gaule. C'était l'évêque de Milan. La cour ne pouvait hésiter. Valentinien fit appeler Ambroise et celui qui venait d'être si injustement traité depuis 2 ans, sorti de la ville après la Pâque de 387 en qualité d'ambassadeur de l'empereur, chargé de se rendre à Trèves auprès de Maxime et de sauver l'Empire d'Occident. L'Église, dès ce temps-là, avait souffert de presque toutes les souffrances que pouvait lui causer la méchanceté humaine. Il lui restait à connaître les empiètements des princes convertis, à ne point accepter le joug de la puissance civile, même bien intentionnée, et à refuser de se taire devant les erreurs ou les fautes de ses protecteurs officiels. Ambroise devait connaître un jour cette seconde épreuve et en sortir, je ne dis point à son honneur, ce qui est une pauvre expression humaine, mais à l'honneur de l'Église. Cet évêque de haute naissance, si cultivé, d'un esprit si prompt, vraiment représentant de la civilisation latine dans sa perfection, n'aurait été vraisemblablement qu'un orateur teinté de rhétorique sans le catholicisme. La foi fut sa force. Par elle, il fut un très grand homme. Elle l'empêcha d'être esclave de la musique des mots et de la médiocre ambition de la puissance.